Ah, vous ne devez rien savoir. Ce qui est beaucoup plus important. Mais ce que vous pouvez savoir sur moi, c'est que je viens de l'église de Renan, donc la chapelle sœur qui se trouve pas très loin d'ici. Que pour les plus âgés, peut-être, ils connaissent mon grand-père, Jean-Paul Emery, qui était pasteur aussi en Suisse romande. Et peut-être certains qui ont été anciens ici connaîtront mon père, Daniel Emery. Autrement, à part ça, je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé dans l'informatique pendant 2 ans et demi et maintenant je suis de retour sur les bancs pour étudier la pédagogie parce que je me destine à devenir enseignant de maths et de sciences. Voilà.
Joli programme. Et est-ce que tu as une famille, pas de famille ?
Alors oui, j'ai une famille. Donc en plus de 2 petits frères, maintenant je suis marié et j'ai un fiston qui a 16 mois maintenant, un peu plus.
Félicitations.
Qui n'est malheureusement pas ici. Bon, j'ai bien des photos si vous voulez.
Alors pour les curieux, après, il y aura le temps pour
tout
les
fait,
photos.
Tout à fait, j'ai pas pris de PowerPoint avec des photos.
Excellent. Et comment ça se fait que tu arrives ici ? Est-ce qui tu connais dans notre communauté ? Enfin...
Bah, je me rends compte que je connais quand même pas mal de personnes par le milieu des GBU déjà, parce que j'étais responsable GB très longtemps. Et puis je connais aussi des gens par les scouts, notamment Marie-Laure en fait. Ça fait très 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 longtemps parce que j'ai fait que les petits flambeaux. Mais voilà, on a gardé contact, on s'est revus assez souvent et puis elle m'a invité à venir parler aujourd'hui.
En tout cas, je pense qu'elle a bien fait, je me réjouis de t'entendre et je me propose de prier pour ce temps.
Très bien. Ça marche.
Mon Dieu, merci parce qu'on va pouvoir entendre parler de ta parole, des messagers que tu as déjà envoyés et qui peuvent nous inspirer encore aujourd'hui. Je te prie de nous rendre réceptifs à ce que toi tu as à nous dire et de donner à Christophe toute la liberté et l'aisance qu'il a besoin pour transmettre ce qu'il a à nous transmettre. Merci de bénir ce temps, Jésus. Amen.
Alors, je me réjouis moi aussi vraiment de vous parler. C'est un honneur pour moi d'être devant vous et de pouvoir m'adresser à vous. Donc, comme vous le savez, le personnage que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Apollos. On en parle assez souvent dans la Bible, enfin en tout cas dans le Nouveau Testament, dans en tout cas 3 livres différents. Néanmoins, il n'est pas toujours très connu, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre de lui. Donc effectivement, comme ça a été dit dans le Question pour un champion, c'est un juif à la base, originaire d'Alexandrie, en Égypte, qui est versé dans les Écritures de l'Ancien Testament, forcément, puisqu'il n'avait pas accès au Nouveau Testament à ce moment-là, et il était enthousiaste à propos de Jésus. Rien ne nous laisse indiquer qu'il ait réellement rencontré Jésus en chair et en os, mais ce qu'il a lu dans les Écritures et appris sur la voie du Seigneur lui a amplement suffi pour être pleinement convaincu et tellement enthousiaste qu'il va finir par croiser la route de Paul et effectivement devenir un de ses collaborateurs. Donc, dans les Actes des Apôtres, c'est clair qu'on suit plutôt les périples de Paul et c'est au moment où Apollos va finalement croiser la route de Paul, littéralement, qu'on va commencer à avoir des textes qui parlent de lui. Donc en acte 18, à partir du verset 24, on a un profil qui est dressé d'Apollos. Donc vous pouvez tous, si vous le souhaitez, prendre vos Bibles en acte 18, à partir du verset 24. Et comme je disais, il croise littéralement Paul, dans le sens où Paul, lui, fait son 2e voyage missionnaire. Il vient de Corinthe et se rend à Éphèse. Apollos, lui, arrive à Éphèse, et d'Éphèse, il demande de partir pour Corinthe. Et il se retrouve à Corinthe quand Paul est à Éphèse. Donc vraiment, à Corinthe, c'est Paul d'abord, puis Apollos. À Éphèse, ce sera l'inverse. Donc je commence la lecture dans Actes 18 à partir du verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme très éloquent qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur et parlait avec enthousiasme de Jésus. L'enseignement qu'il apportait sur lui était d'une grande exactitude, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue. Quand Priscille et Aquilas l'eurent entendu, ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus précisément la voie de Dieu. Comme il avait l'intention de se rendre en Achaïe, les frères l'y encouragèrent vivement et écrivirent aux disciples de Corinthe de lui faire bon accueil. Dès son arrivée là-bas, il fut, par la grâce de Dieu, d'un grand secours pour les croyants. Car il réfutait avec vigueur en public les arguments des Juifs et démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Donc ce personnage, Apollos, il y a 5 choses que j'aimerais vraiment que vous reteniez sur lui, 5 choses qui sont utiles pour votre vie, des traits de caractère que je pense que tout chrétien devrait développer tout au long de sa vie. Et pour que vous en souveniez sur le bout des doigts après cette prédication, je vous invite à prendre des objets qui sont censés être par deux par personne sur vos places, ce sont des mains. Donc normalement, chacun devrait en avoir deux, donc vous en avez une de rechange si jamais. Et on va utiliser cette main pour se souvenir de ces cinq caractéristiques d'Apollos et pour que ça reste un peu plus longtemps que la journée d'aujourd'hui. Ce qui est génial, c'est que les enfants qui ont été présentés aujourd'hui ont aussi ces mains et ces mains vont grandir. Et j'espère aussi que ces caractéristiques vont grandir en vous. Donc on va commencer par le premier point, on va aller dans l'ordre des doigts. Hein. Donc le premier point, c'est le pouce. Le pouce qui fait « I like ». Enfin, pour les utilisateurs de Facebook, « j'aime ». C'est l'enthousiasme d'Apollos pour Jésus. Donc comme on l'a dit, Jésus, il ne l'avait pas forcément rencontré, mais ce qu'il a lu dans les Écritures sur lui et ce qu'il a entendu de Jésus lui a amplement suffi pour être enthousiaste à propos de Jésus, nous dit la parole. Et c'est pour ça que cet enthousiasme va le pousser en avant et aller à la synagogue et oser parler en public devant des Juifs qu'il a compris qui était le Messie. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet exemple d'Apollos pour ce pouce ? C'est qu'il n'a pas attendu de tout savoir pour ouvrir la bouche. Parce que si on attend de connaître absolument tout sur Dieu pour oser témoigner, il va se passer deux choses. Premièrement, vous ne témoignerez jamais car vous ne saurez jamais tout sur Dieu. Deuxièmement, vous manquez une occasion d'en savoir plus. Car en effet, si Apollos n'avait jamais osé ouvrir la bouche par rapport à Jésus, comment Priscille et Aquilas auraient pu savoir quelles étaient ses lacunes pour ensuite le renseigner ? Donc, il s'agit de cet enthousiasme qui fait oser s'exprimer et parler. Donc, Priscille et Aquilas sont deux compagnons de Paul qui fabriquaient des tentes avec lui et qui l'ont beaucoup aidé et qui étaient au courant donc, de la venue du Saint-Esprit et qui ont pu renseigner Apollos sur les détails qui lui manquaient. Alors bien sûr, je ne vous encourage pas à parler de ce que vous ne connaissez pas. Apollos parlait de ce qu'il connaissait, et ce qu'il connaissait d'ailleurs très très bien. Et on arrive sur mon deuxième point, l'index. Apollos était instruit, il connaissait les Écritures. Donc l'index, c'est à la fois lever la main à l'école, hein, comme je vous dis, je fais l'étude de pédagogie, mais c'est aussi cet index qui permet de suivre dans la Bible quand on lit. Et mon fiston, qui a 16 mois, utilise aussi beaucoup son index pour s'instruire. Ça, c'est quoi ? Et je suis sûr que les enfants présentés aujourd'hui le font ou le feront, d'utiliser leur index pour s'informer autour d'eux. Donc, le texte nous dit qu'Apollos connaissait très bien les Écritures. Et ce que je vous encourage à retenir pour vous, c'est aussi de puiser dans ces Écritures pour accumuler vraiment la connaissance de Dieu, parce que cette instruction va nourrir votre enthousiasme. Vous allez voir des choses, des liens, vous allez vous dire « mais oui, c'est vrai, on parle déjà de Jésus ici, mais oui, ça a été prouvé, etc. » Et en même temps, votre enthousiasme devrait vous pousser à vous instruire davantage. Donc, l'index de l'instruction, apprendre sur Dieu, lire la parole. Et pour Apollos, ça lui avait suffi d'avoir l'Ancien Testament pour savoir que Jésus était bien le Messie. Et vous aurez un grand impact auprès des gens. Si vous connaissez vraiment bien la parole, que vous pouvez dire « oui, ça c'est dans la Bible, non, ça ce n'est pas dedans », ça a un impact sur les gens autour de nous qui voient qu'on sait de quoi on parle, quoi, simplement. Mais alors attention, l'instruction, ce n'est pas seulement un état. On se dit « on est instruit, maintenant on sait toute chose, on a lu la Bible une fois, c'est terminé ». Pour moi, l'instruction, c'est tout un processus et on en arrive ainsi à notre troisième doigt, le majeur, qui est le fait de se laisser instruire par les autres. C'est le majeur de la fraternité. Apollos, quand on est venu le voir, enfin quand Priscille et Aquilas sont venus le voir, n'a pas dit « mais moi je connais déjà les Écritures, j'ai pas besoin de vous entendre, au revoir, de toute façon si vous aviez quelque chose à dire, vous n'avez qu'à le dire à la synagogue à ma place, je vois pas pourquoi, c'est toujours moi qui devrais me fatiguer à tout présenter ». Non, Apollos a reçu cette parole, a enrichi sa connaissance en écoutant ses frères et sœurs, Priscille et Aquilas. Donc le majeur, comme je vous le montre autour des autres doigts, entouré des autres doigts. Le montrer seul, ce serait insultant. Et c'est pareil pour notre vie de chrétien. On ne peut pas se dresser seul avec nos connaissances, notre instruction, et oublier les frères et sœurs qu'il y a autour de nous qui nous permettent de grandir. J'ai un petit théorème comme ça que je me suis inventé, je pense que ce n'est pas forcément prouvé scientifiquement. Néanmoins, je me suis rendu compte que plus un doigt prenait de coups, plus il était petit. Si vous voyez bien, les doigts qui prennent le plus de coups sont ceux aux extrémités, et heureusement pour nous, ce sont les plus petits, donc on s'y accroche quand même un peu moins souvent. Et si le majeur peut être aussi grand, c'est qu'il est au milieu, protégé par les autres. Et je pense que c'est aussi un beau symbole de la fraternité qu'on a entre nous, qui nous protège et nous permet de grandir. Et cette taille qu'on atteint dans la foi, on l'atteint grâce aux autres qui nous protègent, qui nous entourent, et si on reçoit leur instruction. En plus, il est guidé par les autres doigts autour pour pousser dans la bonne direction. Alors de nouveau, qu'est-ce qu'on peut en retenir pour nous ? Ben, je pense que c'est justement de ne pas croire qu'on peut se passer des frères et sœurs. On peut être très éloquent, avoir beaucoup d'instructions, avoir beaucoup d'enthousiasme, c'est très bien, ce sont d'autres choses très importantes. Néanmoins, penser qu'on peut se soustraire aux autres, ne pas les écouter, c'est une grave erreur. Et Apollos ne la fait pas. Mais maintenant, encore une fois, attention, si on s'arrêtait là, si on s'arrêtait après trois doigts, ce serait dommage. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on est bien avec les frères et sœurs, une fois qu'on a grandi, il est temps d'aller en parler à l'extérieur. Et on arrive à mon quatrième doigt, là je prends sur cette main-là, c'est le doigt de l'alliance, l'annulaire. Pourquoi ? Parce qu'Apollos, qui était juif à la base, voulait à tout prix parler de la nouvelle alliance proposée en Jésus-Christ. Il connaissait l'ancienne et il voulait à tout prix parler aux juifs, c'est pour ça qu'il était dans une synagogue d'ailleurs, de cette nouvelle alliance. Par ailleurs, en Égypte, il y a une croyance qui voulait qu'une veine partait directement du cœur et aille à l'annulaire gauche. C'est d'ailleurs pour ça qu'on porte l'alliance de mariage à cet endroit-là, parce que ça a été transmis aux Grecs puis aux Romains, et qui s'appelait la vena amoris, la veine de l'amour. Et je vais donc créer un peu une phrase à partir de cela, c'est « prenez à cœur la nouvelle alliance et son annonce ». Donc Apollos faisait de l'apologétique. Alors c'est un mot difficile, ce sera peut-être le mot de vocabulaire du matin. Donc heureusement pour vous, ça ressemble beaucoup à Apollos. Donc ça commence pareil, ça peut vous aider à ne pas confondre avec d'autres termes savants. Donc il faisait de l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi. Et il n'hésitait pas à reprendre, corriger et à démontrer que Jésus était bien le Messie. Et cette mission ne s'arrête pas justement à rester dans l'Église, au sein des frères, mais à aller auprès des gens, à leur parler de cette nouvelle alliance. Autour de nous, on a des gens qui ne sont pas sous l'ancienne alliance, qui ne sont sous aucune alliance, mais prenez à cœur de parler de l'alliance de Dieu avec nous, de Jésus-Christ. Et l'apologétique, ça commence dans les cœurs. Aussi bizarre que ça puisse paraître, quand on voit les gens débattre avec leur tête, en fait, souvent, les arguments suivent la disposition de cœur de départ. Et autant c'est valable pour les gens en face de nous, autant c'est valable pour nous. C'est du cœur que doit venir le désir d'apporter les gens à Christ parce qu'on est peiné pour eux et qu'on n'a pas envie qu'ils se perdent. Et ce n'est pas au niveau d'un débat intellectuel que l'essentiel se passe. Mais enfin, vous n'êtes pas sans savoir que évangéliser c'est bien, mais si on laisse les jeunes convertis sans rien, on risque de les perdre, on risque de les laisser seuls, livrés à eux-mêmes. Donc après évangélisation vient l'édification. Et je finis donc avec le petit doigt du bâtisseur. Alors, du texte qu'on a lu là sur Apollos, vous allez vous dire, mais Apollos, bâtisseur, je ne le vois pas. Ben, ce n'est pas un problème, on va chercher ailleurs. On va en 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 4. Ceux qui veulent prendre, 1 Corinthiens 3. Donc, 1 Corinthiens, c'est écrit par Paul. Et Paul reprend justement les Corinthiens, parce que ces Corinthiens commençaient à faire des clans. Comme je vous l'ai dit, il y a Paul qui est passé en premier à Corinthe, qui a croisé Apollos, qui allait à Corinthe. Donc Apollos arrivait après Paul là-bas, et les chrétiens de Corinthe n'ont rien trouvé de mieux que de faire des parties, c'est-à-dire « moi je suis pour Paul, moi je suis pour Apollos, moi je suis pour Pierre », et ainsi de suite. Et dans le texte qu'on va lire, Paul les reprend sévèrement en leur disant « mais c'est pas possible, comment vous pouvez vous comporter comme ça? On est tous des serviteurs qui sommes venus pour vous aider, et non pas des rivaux ». Apollos lui-même refuse apparemment aussi cette rivalité, puisqu'à la fin de 1 Corinthiens, dans le dernier chapitre, on voit qu'Apollos refuse de retourner à Corinthe, vraisemblablement parce qu'il avait peur de réactiver des rivalités par rapport à sa personne, parce qu'il était très charismatique, et donc il ne veut en tout cas pas encourager ça, et Paul non plus. Donc on lit en 1 Corinthiens 3 à partir du verset 4. « Lorsque vous dites « moi je suis pour Paul » ou « moi pour Apollos », n'agissez-vous pas comme les autres hommes ? Après tout, que sont donc Apollos et Paul ? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous, vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement, seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Ensuite, je continue plus loin dans ce chapitre, à partir du verset 21, et je déborde sur le quatrième chapitre. « Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous. Que ce soit Paul, Apollos, Pierre, l'univers, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. En ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère comme de simples serviteurs du Christ, des intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants ? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. » Donc là, on voit plus le Paul bâtisseur. L'Apollos bâtisseur, l'Apollos arroseur. Celui qui a aidé l'Église à croître. Et je pense qu'un bon apologète n'est pas seulement celui qui parle de l'Alliance à ceux qui ne croient pas, mais aussi celui qui donne aux autres le moyen de se défendre eux-mêmes, de défendre leur foi. Donc Apollos n'est pas contenté de contredire les gens, mais il a aussi posé des constructions, si j'ai envie de dire, il a construit une sorte de muraille de défense dans cette église pour que les gens soient aptes à défendre leur foi. Et comme je disais, le petit doigt, c'est souvent celui qui se prend les coups, et Apollos finalement a aussi accepté d'être celui justement qui se prend les coups, le petit doigt du bâtisseur, celui qui vient consolider l'église. Par ailleurs, c'est le petit doigt. Pourquoi le petit doigt ? Parce que c'est humble, c'est un travail humble. Comme le dit très bien Paul, finalement, qu'importe qui est-ce qui plante, qui est-ce qui arrose. L'important, c'est Dieu qui fait croître. L'essentiel du travail, c'est Dieu qui le fait. Mais il faut quand même avoir au moins ce petit effort de notre part de bâtisseur pour que Dieu puisse pleinement révéler toute sa puissance. Il a décidé de nous utiliser et nous, on doit faire juste cette petite part. Et l'essentiel du travail, c'est Dieu qui le fait. Donc pour conclure, on va reprendre les différents doigts de la main ensemble. Puis ce sera à vous de me dire qu'est-ce que chaque doigt représente. Alors commençons par le pouce de l'enthousiasme, tout à fait. Donc osez parler de Dieu autour de vous, n'attendez pas de tout savoir pour oser vous adresser aux gens, montrer votre enthousiasme, montrer à quel point vous êtes convaincu que Jésus change quelque chose dans la vie. Le deuxième doigt, le doigt de l'instruction. N'hésitez pas à piocher dans la Bible, creuser tout ce qu'il vous faut, parce que c'est là-dessus que vous allez pouvoir construire tout votre témoignage et aussi votre propre vie. C'est ça qui va nourrir aussi votre enthousiasme. Le troisième doigt, le majeur de... Je ne l'ai pas beaucoup répété. Hein. Fraternité, oui, je l'ai entendu. La fraternité. Soyez au milieu des frères, acceptez quand on vous reprend, quand on vous guide, quand on vous aide. C'est comme ça que vous allez devenir grand et surtout, n'ayez pas l'orgueil de vouloir finir seul. Maintenant, l'annulaire. L'annulaire de l'alliance, tout à fait. De l'alliance, de l'apologétique, donc de la défense de cette alliance, de présenter ce que Jésus a fait comme nouvelle alliance conclue avec nous. Et enfin, l'auriculaire du bâtisseur. Édifiez à votre tour comme vous avez été édifié. Aidez les autres à se renforcer, à renforcer leur défense. Et en même temps, restez humble. Car comme le dit le psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. » Donc je vous remercie beaucoup de votre écoute. C'était un vrai plaisir pour moi de pouvoir m'adresser à vous. Et puis n'oubliez pas vos mains en partant, elles pourraient vous être utiles pour vous souvenir du message.